Alors bonjour à vous tous, il y a longtemps, je suis content de vous revoir. Voilà. Qu'est-ce que je veux dire? Oui, je ne vais pas commenter le texte biblique aujourd'hui, ce sera plus une dimension un peu d'enseignement, et puis Et j'espère vous laisser à la fin un moment d'échange, mais aussi de questions-réponses. Mais j'essaie de vous faire intervenir entre-temps. Donc la Bible, le texte biblique, et surtout le texte biblique original, c'est ça qu'il y a derrière, d'hier à aujourd'hui. Voici une page de Bible, donc ça nous est familier, tel que ça se présente. Et en même temps, si vous devez y réfléchir quelques secondes, je pense que nous savons tous que la Bible, quand Paul a écrit, quand l'auteur de l'Ecclésiaste a écrit le livre de l'Ecclésiaste, il n'a pas écrit comme ça. C'est pas possible. En fait, les premières pages de la Bible, à l'origine, elles étaient plutôt comme ça. Enfin, pas comme ça, parce que là, c'est le manuscrit est abîmé, hein, mais voilà. Mais ça ressemblait plutôt à des choses de cet ordre. Et je vous propose de relever ensemble rapidement les différences. Donc là, je vous invite à intervenir. Qu'est-ce qui est pareil? Qu'est-ce qui n'est pas pareil? Pas de chapitre. Pas de verset, oui. Pas de titre. Oui. Pas de numéro. Voilà, c'est pas numéroté. Il n'y a pas toutes ces informations. Il n'y a pas aussi les notes de bas de page. Pas de commentaires. Pas le même alphabet. C'est pas la même langue. Je pense que vous lisez plus facilement ici qu'ici. À moins que je sois le contraire. Si quelqu'un fait ça, qu'il me fasse signe. Autre remarque? Pas de trou, c'est complet. Enfin, pas de trou ici, tu veux dire? Oui. Là, il peut y avoir des trous, oui. 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 Donc, les mots ne sont pas séparés des uns des autres, en effet. Il n'y a pas de ponctuation. Jean-Claude? Non, en fait, non, parce que j'ai dû faire le PowerPoint hier en dernière minute et j'aurais aimé le faire et j'ai pas retrouvé des correspondances. Oui, oui. Donc en fait, non. Et puis en plus, même pour insister sur la différence, c'est un manuscrit du Nouveau Testament ici que j'ai projeté. Donc c'est même pas un manuscrit hébreu. Donc, voilà. Ok, on a fait à peu près le tour, hein. Oui, alors voilà, là ça a été écrit en effet à la main. Alors je vous propose de voir rapidement, ça va être un survol assez général, hein, mais ce qui s'est passé entre ces deux pages pour aller d'une page à l'autre. Et juste une petite idée, alors pour deux raisons, parce que peut-être c'est une question que vous vous êtes posée, et puis il n'y a pas beaucoup de choses en français qui sont disponibles, enfin, à ma connaissance, sur ces questions, il n'y a pas beaucoup de personnes qui me semblent s'y intéresser. À ma connaissance, et aussi parce qu'évidemment il y a un autre enjeu qui est plus essentiel, c'est dans quelle mesure les traductions que nous avons, les manuscrits que nous avons aujourd'hui, ce qui nous reste, correspond à ce que l'auteur original a écrit. C'est bien sûr cette question. Est-ce que l'original s'est bien transmis? Parce qu'après tout, entre le moment où Moïse a écrit et puis aujourd'hui, bien, il s'est passé 30 siècles. Et en 30 siècles, il se passe pas mal de choses. Donc je m'arrête juste à l'essentiel, à ce qui me paraît l'essentiel, et je vais me focaliser aussi sur le Nouveau Testament, mais parce que j'ai pas le temps, hein, c'est juste ça. Si vous voulez en savoir plus, j'aurai plaisir à discuter avec vous, et je vous invite éventuellement, si vous voulez en savoir un petit peu plus, mais ça c'est encore un résumé, mais sachez que dans cet ouvrage, il y a un chapitre qui est consacré à la question. Sachez que c'est moi qui l'ai écrit, enfin, ne le sachez pas, c'est pas ça qui est important. Mais voilà, j'en fais juste part parce qu'il n'y a pas beaucoup de textes à ce propos en français. Je commence par l'écriture. Et la chose peut-être la plus importante, c'est que la Bible apparaît dans un monde où on sait écrire. Parce que ça n'a pas toujours été le cas. Il faut savoir écrire, il faut savoir lire, il faut des lecteurs, des auteurs, des personnes qui écrivent et des personnes qui lisent. Les plus anciennes traces d'écriture datent de 3400, 3300 avant Jésus-Christ, et on les trouve en Mésopotamie, à Uruk, peu importe. Bon, il y a aussi l'Égypte, voilà, mais je résume. Ça, c'est pour l'écriture normale, enfin normale. C'est pour le fait d'écrire au niveau des traces, et il y a aussi l'alphabet. Les premières traces d'alphabet, elles, remontent approximativement au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ. Et le XVIIIe siècle avant Jésus-Christ, c'est à peu près l'époque d'Abraham, oui. Et dans les textes bibliques, c'est Moïse qui écrit pour la première fois. Alors Moïse, on ne sait pas bien dater, mais ça peut être ou le XIVe siècle ou vers le Xe siècle. Non. XIe, XIIe siècle, il y a des questions, mais peu importe. Donc, quand Moïse écrit, il a de quoi écrire. On écrit, ceux qui savent écrire, écrivent sur différents supports. La première, nous la connaissons très bien, c'est les tablettes, mais pas celles que nous utilisons aujourd'hui. Évidemment, des tablettes d'argile. Donc c'est de la terre. Voilà, merci, c'est le mot que je cherchais. Et puis on écrit dessus quand l'argile est humide. Vous faites chauffer, vous passez ça au four, cuisson, au soleil, et ça y est. Ou bien on gravait sur la pierre. Enfin, on pouvait utiliser tout ce qu'on a sous la main, hein, grosso modo. Parfois le métal. On se servait de roseaux notamment aussi. C'est le papyrus. Ces papyrus, on les taille en lamelles qu'on dépose les unes à côté des autres de manière parallèle, et par-dessus on rajoute donc lamelles parallèles, et par-dessus on rajoute une autre couche de lamelles parallèles, mais de manière perpendiculaire. Et on presse ça, il y a de la colle. Enfin, la plante sécrète, si je puis dire, de la colle, et donc on a un support qui correspond à un rectangle. Ordinairement, la page fait environ 25 cm de haut et 18 à 20 cm de large. Et donc on colle les feuilles. Alors, et on colle, donc une fois qu'on a ce rectangle, on va coller l'autre rectangle, on va coller les feuilles les unes aux autres. Donc on a la première feuille, on colle la deuxième le long, et puis on colle la troisième. On colle la troisième, etc. Ce qui donne un rouleau. Donc vous voyez, là c'est roulé, hein, là c'est la tranche du rouleau, c'est enroulé ici. Voilà. Et c'est ça le livre, au moins dans l'Ancien Testament. Un rouleau en grec, biblos, voilà. Longueur moyenne du rouleau, 3,5 mètres. Deuxième support important, s'il y a des choses, des questions importantes à un moment donné, vous n'hésitez pas à vous manifester. Voilà, Donc deuxième support important aussi, c'est le parchemin. J'ai pas de photo de parchemin. Le parchemin commence à apparaître au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et lui, c'est fait à partir de peaux d'animaux, essentiellement du veau, des veaux, des moutons, des chèvres, qu'on prépare spécialement aussi pour pouvoir y écrire. Et avec les parchemins, c'est une innovation. Enfin, on va faire ce qu'on appelle le codex, c'est-à-dire on a des pages, mais on les relie, on les rattache les unes aux autres. Donc c'est un ensemble de pages de peau qui sont reliées ensemble comme un livre. Alors le parchemin existe aux 3 siècles avant Jésus-Christ, commence à ce moment-là. Le codex va se développer surtout dès le 2e siècle après Jésus-Christ. Et ce qui est curieux, ce sont surtout les chrétiens qui l'utilisent. Et on s'est demandé pourquoi. En fait, on en trouve ailleurs, mais c'est surtout les chrétiens. Et certains ont fait l'hypothèse, par exemple, que c'est, on voulait relier toutes les lettres de l'apôtre Paul ensemble, et donc pour éviter de porter des, voilà, pour pouvoir tout rassembler et que ce soit facile à consulter. Parce que le problème du rouleau, évidemment, c'est que quand le rouleau est enroulé là et que vous voulez le truc qui est à la dernière page, enfin, donc il faut tout dérouler, quoi. Là, c'est quand même beaucoup plus commode. Le texte est écrit donc en colonne, vous le voyez, de gauche à droite, en colonnes qui font environ 6 à 8 cm de large, et l'ensemble fait 15 à 20 cm de haut. Et ça, on en trouve des attestations bibliques. Plusieurs des choses que j'ai évoquées, je pourrais les illustrer bibliquement, mais voilà, je m'en tiens juste à ça. L'apôtre Paul, quand il écrit à Timothée, écrit « Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé en Troade, et les livres, spécialement les parchemins. » Donc sans doute les rouleaux et aussi les parchemins. Et le papier, me direz-vous. Enfin, vous n'allez peut-être pas le me dire, mais moi je l'ai dit maintenant. Donc voilà. Le papier, bien, il vient plus tard. En fait, le papier a été découvert quand? Comment? En son temps, oui, mais... mais encore. Avant Internet. Alors, je ne vais pas trop prolonger, c'est en Chine. Et c'est au 1er siècle de notre ère. Donc le secret de la fabrication a été gardé assez longtemps, c'est les voyages qui font que... Bref, il est arrivé en Europe autour du 9e siècle. Pour écrire, donc ça c'est le support, pour écrire on se sert de différents outils en fonction du matériau concerné, donc ciseaux à pierre, hein, si je puis dire, crayons de métal, d'ivoire, d'os. On sait aussi fabriquer de l'encre, dans la deuxième de Jean je crois, deuxième épître de Jean, il est question d'écrire avec de l'encre. La plume d'oiseau, qui a été familière un certain temps, apparaîtra au 6e siècle de notre ère. Voilà, idée générale. On estime à environ 5% la population qui était capable de lire. 5%, ça veut dire 5 personnes peut-être parmi nous quand toutes les chaises sont prises. Moins nombreux encore ceux qui savent écrire, parce que c'est pas comme un stylo où je prends le truc et j'écris, c'est simple. Non, techniquement, il faut tailler le roseau. Enfin, il faut préparer le support. C'est pas comme ça qu'est tout prêt. Je vais chez Isère Bureau et puis j'en ai 50 000 pages et je vais acheter toutes les réserves. Non, c'est pas ça. Donc c'est une profession à part entière. Les outils sont moins faciles à manipuler que nos stylos et feuilles, et il faut donc avoir une certaine instruction. Peut-être, la plupart du temps c'est le cas, c'est les personnes qui font partie des sphères administratives dans des royaumes qui savent écrire. Bref, synthèse, ce qu'il faut retenir, c'est que pour la Bible, de Moïse à l'apôtre Paul, on a de quoi écrire. On a de quoi écrire, maintenant il faut reproduire le texte. Parce que pour les textes bibliques, comme tous les textes antiques, une grosse part de ce que je dis, ça concerne la Bible, mais ça concerne tous les textes antiques. Eh bien, à l'époque, il n'y a pas de photocopieuse. On ne peut pas envoyer par mail, ça ne le fait pas. Et c'est impossible d'envoyer le même document à l'identique. Il n'y a pas de photocopie. Donc les textes bibliques, eh bien, sont copiés à la main. Et c'est pour ça qu'on les appelle des manuscrits, parce que la manu, c'est la main, écrit, c'est écrire. Voilà. Et évidemment, la poste, il n'y en a pas. Donc quand l'apôtre Paul écrit aux Romains, il ne va pas le mettre dans la boîte qui est au bout de la rue. Hein, il le confie à quelqu'un qui va à Rome, donc il confie ce qu'il a écrit à un messager. Et le messager va de ville en ville, il y va à pied, en bateau, il y va, quoi. À pied le plus souvent. Et les manuscrits sont copiés. Voilà. Et les copies elles-mêmes sont recopiées. Donc quand le messager arrive à l'église de Rome, eh bien, on copie sans doute pour la première église de maison, et puis on copie pour la deuxième église de maison, et puis on copie pour les chrétiens qui vivent à l'intérieur de l'Italie, on copie de copie en copie. Ça se diffuse. Et d'ailleurs, ça va très vite. Hein. On a l'exemple d'un texte antique, si ma mémoire est bonne, je ne sais plus ce que c'est, mais qui 20 ans après, donc écrit en Italie, 20 ans après, on le retrouve en Égypte. Enfin, je dis 20 ans après, on le retrouve en Égypte. Nous, on le retrouve aujourd'hui en Égypte, et on sait dater que c'était entre le moment d'écriture et le moment où il était en Égypte, il y a 20 ans maximum. Donc voilà, on copie, on recopie au fil des temps, au fil des lieux. Alors, ce qui est important de savoir et qui peut-être peut nous déranger, mais voilà, mais c'est la réalité, c'est que pour les textes bibliques, on doit faire le constat que, je ne sais pas ce qu'il y a comme diapo après. Oui, c'est ça. Que pour les manuscrits originaux, c'est-à-dire ce qu'on appelle les autographes, quand Paul a écrit la lettre aux Romains. Donc ça c'est l'autographe, c'est quand le véritable auteur a écrit le premier texte. Si c'est lui qui a écrit, c'est peut-être un copiste à côté qui copie. Donc les autographes, le premier jet de la lettre aux Romains, qu'il s'agisse des évangiles, des lettres, qu'il s'agisse de l'Ancien Testament, les autographes ne nous sont pas parvenus. On n'a pas les autographes. Et d'ailleurs, même si on les retrouvait, comment savoir que c'est l'original? Compliqué. Nous n'avons que des copies, ou plutôt des copies de copies, ou des copies de copies de copies de copies de copies. Voilà, parce qu'on ne sait pas ce qui s'est passé entre-temps. Donc c'est vrai pour la Bible, mais c'est vrai de tous les textes antiques. C'est vrai de Platon, c'est vrai d'Aristote, c'est vrai d'Euripide, enfin les philosophes, etc., Virgile, Cicéron, César, la guerre des Gaules, Tacite, enfin bref, on peut continuer. Mais c'est même vrai d'auteurs plus récents. Il ne reste pas de manuscrit original complet, non, d'une seule œuvre de Shakespeare. Shakespeare, c'est le 17e ou 18e, je ne sais plus très bien. Donc on a bien sûr des copies assez vite, les textes ont été imprimés, mais là où Shakespeare a lui-même écrit, on n'en a plus. Je cite un auteur qui écrit « Les textes grecs principaux, alors là c'est pour le Nouveau Testament, les textes principaux que nous possédons aujourd'hui sont des copies de copies, datant presque tous du Moyen-Âge. » Je nuancerai tout à l'heure. Et c'est normal parce que le temps a passé, ça peut faire 30 siècles, ça fait au moins 20 siècles pour le Nouveau Testament. Les manuscrits sont bien sûr fragiles. Le papyrus, d'ailleurs, ceux qui ont survécu dans des terres chaudes, donc plutôt en Égypte, plutôt au milieu de la Mésopotamie. Mais ceux qui ont été ramenés en Europe ont disparu. Les matériaux s'abîment, il y a des incendies, il y a des guerres, il y en a encore aujourd'hui, il y a de l'usure. Plus on lit la Bible et plus on use notre Bible. C'est normal. Et la première conséquence, c'est que nous n'avons qu'une toute petite partie des copies qui ont été faites au cours de l'histoire. Et très souvent, en fait, nous n'avons que des manuscrits fragmentaires. Celui que j'ai projeté au début le montre. C'est peut-être, je ne sais pas ce que c'est ça, mais il y a des trous. Et peut-être c'est la seule page qu'on a là d'un texte biblique, qui était lui-même plus long à l'origine. Donc n'imaginez pas qu'on ait à chaque fois, quand on parle de manuscrits complets de l'ensemble du Nouveau Testament, c'est pas le cas. Parfois oui, il y en a aussi, mais le plus souvent nous n'avons que des petits bouts, voire même des tout petits bouts. Et c'est le cas par exemple d'un des papyrus les plus anciens que nous avons du Nouveau Testament. Ah oui, ils sont répertoriés, on l'appelle le P52. Je vous le présente, je l'ai avec moi, enfin j'ai une photocopie en l'occurrence. Voilà, c'est ça. Ça, ce petit bout, cette photocopie de petit bout de manuscrit, ce sont des extraits de l'évangile de Jean. Bon, pour mieux le voir, je vous le montre comme ça. Voilà. Donc là, on a quelques lettres de l'évangile de Jean, chapitres 17 et 18, sauf erreur de ma part. Alors, ils ne sont pas tous comme ça. Hein. Et c'est souvent plus ample, mais on peut avoir ça. Et il faut attendre. Je me tourne vers l'ancien imprimeur, Michel. L'essor de l'imprimerie en Europe pour pouvoir faire des reproductions à l'identique et en grande quantité. L'imprimerie, en fait, elle existe très tôt en Extrême-Orient. C'est encore les Chinois, 7e siècle en Chine. L'imprimerie existait. Et c'est Gutenberg qui va améliorer le système de manière décisive. Peut-être Michel en saurait plus que moi là à ce propos. Donc si vous avez des questions, allez plutôt le voir que moi là-dessus. Et en fait, c'est la traduction latine de la Bible qui est un des premiers livres imprimés en Europe par Gutenberg. Ça, c'est entre 1452 et 1455, donc 15e siècle. Mais donc, avant l'imprimerie, on écrit à la main. Et du coup, deuxième conséquence... C'est là que ça peut être préoccupant, ça peut poser des questions qui peuvent nous préoccuper éventuellement. Mais si vous avez déjà écrit à la main, mais vous savez que dès qu'on copie un texte, eh bien on introduit des altérations. D'abord de manière inconsciente, de manière involontaire, il arrive qu'on saute des mots, il arrive qu'on fasse des fautes, il arrive qu'on saute des lignes, il arrive qu'on rajoute des mots. Il arrive qu'on écrive un mot à la place d'un autre. Et ça, c'est les phénomènes les plus courants. Et j'ai envie de dire, rentrez chez vous et faites l'expérience. Prenez une page de texte, recopiez-la et comparez, ou donnez à quelqu'un d'autre de comparer, parce que parfois on est convaincu d'avoir écrit la bonne chose. Et puis il faut que quelqu'un d'autre dise non, c'est pas la même chose. Ça m'est arrivé, on a changé la box. Pierre m'a mis le mot de passe, j'ai recopié lettre par lettre, c'était idéal, j'ai rentré le mot de passe, ben non, c'était pas le bon. Il a fallu que je relise 5 fois lettre par lettre en me concentrant sur chaque lettre pour me rendre compte que j'avais mis une minuscule au lieu d'une majuscule. Avec la box, ça pardonne pas. Et j'étais convaincu d'avoir tout. Donc, dès qu'on copie une page de texte, il n'est pas rare, il est normal qu'on introduise une ou plusieurs erreurs de copie. Et juste si on est fatigué. Donc, altération involontaire, mais il y a aussi des altérations volontaires. Si j'ai un manuscrit devant moi et que je pense qu'il y a une faute, ah, il a fait une erreur là, donc je corrige la faute. Et peut-être que ce n'est pas une faute. Enfin, voilà. Donc. Et en fait, autant il y a de copies d'un texte, autant on a des versions différentes, lettre à lettre, du même texte. Il y a toujours une altération, au moins, minimale. Donc, on n'a pas deux manuscrits, qu'on a retrouvé des manuscrits bibliques aujourd'hui, on n'a pas deux manuscrits identiques, surtout pour le Nouveau Testament. Et comme les copies... Alors, je ne sais plus où j'ai mis ce truc-là. Oui. Il faut bien se rendre compte que, donc, on a un original, ben, autant le mettre tout de suite. J'ai un original, il est copié. Supposons qu'il est copié 3 fois. Voilà la lettre de Paul aux Romains. Supposons que, c'est tout à fait hypothétique là, supposons qu'il y ait eu juste 3 personnes qui l'ont copié, l'original. Donc lui, il copie, lui aussi. Et puis, je continue. Et puis, celui, pareil, on continue. Il y a la copie 1 et recopiée 2 fois, etc. Et puis, ça continue comme ça. OK. Ça, c'est ce qu'il faut avoir en tête. Donc ici, ben, j'introduis une altération. Cette altération risque d'être reproduite par la suite, avec les nouvelles altérations qui sont introduites par chacun, et tout ça est reproduit et se déploie un petit peu par la suite. Donc voilà. Et ça vaut pour la Bible. Alors, et puis au bout du compte, ben, ce qui nous reste aujourd'hui, nous par exemple, parce que tout ça, c'est ce qui s'est passé, qu'on imagine qu'il s'est passé, mais nous, ce qui nous reste aujourd'hui, ben, en fait, c'est peut-être 2 de tous ces manuscrits que j'ai projetés. Ou peut-être une partie comme ça d'un manuscrit, etc. Et ici, vous voyez, j'ai numéroté, j'ai mis 2B, 3N, donc 2, ça voulait dire que c'était la deuxième étape, hein, c'était à ce niveau-là. Mais en fait, nous, on peut dire, on a juste un manuscrit qu'on va appeler B et N, on ne sait pas quel étage de la transmission s'est transmis. Voilà ce qu'on a. Donc ça, c'est vrai pour tous les textes antiques. Du coup, question, ben, oh, pardon, pourquoi je suis déjà là? Ah, parce que j'ai fait une erreur de... Il y a une altération qui s'est produite de manière involontaire. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec tous... Donc, j'avais un titre, « Essayer de remonter à l'original ». Qu'est-ce qu'on fait avec tous ces... Si la Bible est la parole de Dieu, si on tient vraiment à revenir au plus près de ce que l'apôtre Paul a écrit, donc comment on fait aujourd'hui avec des manuscrits fragmentaires et dont il manque... Comment on fait? Eh bien, on fait comme on a fait tout au long de l'histoire, surtout à partir de l'époque moderne, à partir du XVIIe siècle, on essaie avec ce qui nous reste aujourd'hui, ce qu'on retrouve aujourd'hui, et parfois on retrouve de nouveaux manuscrits dans des bibliothèques, peu importe, on essaie de, à partir de ce qu'on retrouve, de remonter en se disant qu'est-ce qui était probablement le texte d'origine. Ça vaut pour tous les manuscrits antiques. Ça vaut pour Platon comme ça vaut pour la Bible. Et quand des manuscrits n'ont pas la même, ce qu'on appelle la même leçon, le même texte exactement, eh bien on essaie de sous-peser en disant qu'est-ce qui était le plus probablement le texte original. Avec plusieurs règles, j'en donne juste l'exemple d'une. Et du coup, par exemple, supposons qu'on ait des manuscrits, 50 manuscrits où on lit Jésus marchait au bord du lac. Oui, c'est ça. Et supposons qu'on ait 20 manuscrits où on lit, il y a une différence, c'est pas le mot lac, c'est le mot mer. Bon. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment? Oui, il marche au bord de l'eau. Au niveau du sens, ça change rien. Ou presque. Mais maintenant, si on se dit, mais qu'est-ce qu'il y avait dans le texte original, comment on peut faire? « Voilà, donc ça c'est une façon facile de se dire, ben, voilà, il y a un pourcentage de chance que ce soit plutôt la première leçon là plutôt que mère. Donc ça c'est un des critères, sauf que pas forcément, parce que si le mot lac par exemple se trouve dans 50 manuscrits qu'on a retrouvés, donc qu'on sait qu'on a retrouvés en Italie. Donc critère géographique. Et si on sait par ailleurs que le mot mère, lui, se trouve dans des manuscrits, donc 5 qui viennent d'Égypte, 5 qui viennent de Russie, 5 d'Espagne, 3 d'Allemagne et 2 de France, donc répartition géographique différente, on pourra être tenté de conclure en disant, ben voilà, ici on a recopié lac, c'est bien lac, hein, j'ai perdu du coup. Oui, merci. Lac, et tout le monde a recopié l'erreur, lac. Tandis que là, on a dans des régions très très différentes d'avoir exactement le mot mère, ça donne davantage à penser que c'est le mot mère qui était probablement dans l'original. Il y a d'autres exemples, mais j'illustre ça. Question la plus importante, donc quel est l'effet de ces altérations aujourd'hui? Et est-ce qu'on peut faire confiance à nos traductions, en fait, aux manuscrits sur lesquels elles s'appuient? Alors, je répondrai en deux temps. La première réponse, c'est de dire la chose suivante. Si pour avoir confiance dans les traductions qu'on a, enfin, c'est pas les traductions, mais dans les manuscrits qui servent pour nos traductions, si pour avoir confiance en la Bible, on va dire ça comme ça, nous devions être absolument sûrs d'avoir mot à mot, lettre à lettre, le texte original tel que Paul, tel que Moïse et les autres auteurs bibliques l'ont écrit, si c'était indispensable pour nous, alors ça va être impossible de faire confiance. Et c'est vrai autant pour la Bible que pour les auteurs profanes. Mais évidemment, l'enjeu pour la Bible est plus fort. C'est pas possible parce qu'on n'a pas de manuscrits identiques. Donc ça, c'est une première façon de réagir. Deuxième façon de réagir qui serait la mienne, ben, de mon côté, je dirais oui. Oui, nous pouvons avoir confiance. Et je donne au moins deux raisons pour ça. La première, c'est qu'en fait, la Bible, justement, à cause de son importance, elle a été énormément copiée, bien plus que les auteurs profanes. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans une situation tout à fait unique par rapport aux autres textes anciens. Beaucoup s'est perdu, et comme ça a été beaucoup copié, merci... Du coup, j'ai perdu le fil, mais c'est pas par ta faute, c'est... Je suis fatigué, on a fait des visites archéologiques hier, voilà, j'ai pas l'énergie que j'aimerais avoir, c'est pas grave, peu importe. C'était juste pour vous expliquer que ça met du temps. Donc il y a beaucoup plus de manuscrits bibliques qui ont survécu que de manuscrits d'auteurs profanes. Et personne ne dit aujourd'hui en lisant Platon, oui mais on a ce texte, mais on n'est pas sûr. On est suffisamment sûr de Platon pour dire Platon, il a dit ça. Mais donc, et on a beaucoup, beaucoup moins de manuscrits, je vais vous donner des chiffres, de Platon ou de Jules César. Par exemple, pour Platon, je parle de Platon, sachez que pour le livre qui s'appelle Le Banquier, nous ne disposons en tout et pour tout que d'un seul manuscrit qui date d'avant le IXe siècle. Pour César, pour la guerre des Gaules, que vous avez peut-être eu la joie de faire à l'école, si vous avez fait du latin, c'est quand ça existait encore, nous n'avons aucun manuscrit de la guerre des Gaules qui date d'avant le IXe siècle. Parce qu'on est capable de dater les manuscrits, on dit si c'est du papyrus, par exemple, ça peut pas être avant telle époque, etc. Voilà. Ou bien l'auteur a mis à la fin, j'ai copié aujourd'hui en l'an de grâce 972, voilà. Pour les textes grecs du Nouveau Testament, nous disposons de 140 papyri. Donc là, on est bien avant le 9e siècle. Le papyrus, c'est jusqu'au 3e siècle, enfin jusqu'au 12e siècle, mais de façon courante. Après, on passe sur d'autres supports. Donc, 140 papyri du Nouveau Testament, 320 manuscrits en majuscules, ça veut dire des textes souvent écrits sur parchemin. Donc voilà, ça c'est une partie des choses. Il faut rajouter à ça 2854 manuscrits en minuscules. Et c'est pas terminé, parce qu'en fait, là, je vous ai montré, donc j'ai parlé des copies et des copies de copies. Il y a aussi des citations. Il y a des livres anciens, des commentateurs anciens, des chrétiens comme nous qui lisaient la Bible et qui disent l'apôtre Paul a écrit, ça veut dire que. Donc, la Bible a été citée. Même si tous les manuscrits bibliques du Nouveau Testament avait disparu, on serait encore en mesure de reconstituer le Nouveau Testament tellement il a été cité à l'époque. Et puis, dernier élément, on a aussi le texte original a été traduit dans toutes les langues de l'époque. Donc on a aussi on a une masse impressionnante de manuscrits. Ça, c'est la première raison. Le texte biblique a été énormément copié, donc ce qui nous donne matériaux pour pouvoir remonter. Et puis, deuxième raison, et c'est la raison essentielle, c'est qu'en fait, ces variantes, ces différences entre manuscrits, elles sont du même ordre. Pour la plupart d'entre elles, 99,999% du même ordre que Jésus marcha au bord du lac ou bien au bord de la mer. À l'exception de quelques passages bien connus où ça peut impressionner, je vais donner un exemple, en fait elles n'ont quasiment aucune incidence sur le sens du texte. Donc, j'illustre d'abord le fait qu'il y a des passages bien connus où les différences peuvent impressionner. Pour le Nouveau Testament, il y en a environ une dizaine. C'est le cas, par exemple, de la fin de l'évangile de Marc. Je ne vais pas donner trop de détails pour vous laisser un petit temps de questions. Mais dans les manuscrits les plus fiables, ça s'arrête au verset 8. Et le verset 8 nous dit que les femmes ne disent rien à personne car elles étaient effrayées. Elles sont allées au tombeau et puis elles n'ont pas trouvé le corps de Jésus. Donc elles ne disent rien à personne car elles étaient effrayées. Fin. Donc il n'y a pas le récit de la résurrection. Bref, je donne pas de... Donc voilà, donc plusieurs des manuscrits s'arrêtent ici. D'autres manuscrits ont ce qu'on trouve dans nos traductions. Et puis il y a d'autres qui ont une autre fin, un résumé en fait. Si vous regardez vos notes de bas de page... Vous avez ce type d'information. Je passe sur le récit de la femme adultère, mais bon, ça sera un autre exemple. Donc il y a quelques passages où ça fait question. Oups, pardon. Deuxième point, en fait, la plupart du temps, l'incidence sur le sens, elle est complètement insignifiante. Et je donne deux exemples. Je prends le début de la lettre Philémon. Le texte qui est dans nos traductions, c'est Paul prisonnier de Jésus-Christ. Eh bien, sachez qu'il y a un manuscrit qui a Paul apôtre de Jésus-Christ. Il y a un manuscrit qui ne savait sans doute pas choisir entre les deux, donc il dit bon, ben, je prends les deux. Et puis quelques manuscrits ont Paul esclave de Jésus-Christ. Deuxième exemple, à Philémon le bien-aimé. Peu de manuscrits ont à Philémon le frère bien-aimé. Et c'est comme ça la plupart du temps. Donc le sens n'est pas affecté. Et jamais les variantes ne touchent l'essentiel de la foi. Au pire, on n'est pas tout à fait sûr si l'auteur a écrit le lac ou la mer. Mais bon. De toute façon, à propos de cet exemple, la mer de Galilée, c'est un lac. Donc ça ne touche rien de ce qui fait le cœur de la foi chrétienne. Pratiquement, je vous invite à être attentif. Alors, c'est parfois signalé entre crochets dans vos Bibles. Donc à être attentif à ces crochets, à regarder les notes de bas de page, parce que tout ce qui a une certaine importance est répertorié dans les traductions. Et puis pratiquement aussi, ça vous permettra de comprendre aussi parfois pourquoi les textes de deux traductions sont différentes. Parce que parfois on aura choisi certains manuscrits, et puis là il y a des moments où on ne s'est pas bien arbitré. On dit oui, c'est probable que, mais on n'est pas tout à fait sûr. Donc généralement, on peut faire le choix A ou le choix B. Et si les Bibles sont bien fichues, généralement c'est le cas, on vous signale en note de bas de page. On peut aussi, à partir des manuscrits anciens, traduire de la façon suivante. J'ai terminé ou presque. Je voudrais laisser de la place à des questions, mais je rajoute juste avant que donc la numérotation du texte en chapitre. Alors, pour la date d'autour de 1203, c'est un certain Stephen Langton, et que en fait c'est les Juifs, les Juifs ont repris le partage en chapitres a été fait côté chrétien et que les Juifs ont repris le travail fait des chrétiens pour l'Ancien Testament. Et la division en versets, donc pour l'Ancien Testament, en fait on ne sait pas très bien de quand elle datait, mais ce qu'on sait c'est qu'au 5e siècle de notre ère elle existait déjà, mais c'était plus ancien. Les chrétiens... Là, c'est les chrétiens qui ont repris pour l'Ancien Testament la division juive. Et les chrétiens, donc c'était en 1520, et ils ont numéroté les versets, eux, du Nouveau Testament, autour de 1550, à la même époque. Oui, vas-y, j'allais l'ouvrir justement. Parce que ça ne correspond pas à nos phrases en français. Mais peut-être ça dépend. Je pense que c'est la raison principale. En français, le texte grec, lui, ça peut coller, par exemple. C'est une fin de phrase en grec, mais pas forcément en français. Ça dépend de la façon dont on traduit, je pense. Ça te va? Il faudrait vérifier, là, mais comme ça, c'est ce que je dirais. En général, oui. Mais si, par exemple, ça me vient là. Éphésiens, à partir du verset 3, 4, je ne sais plus. Béni soit Dieu, le Père du Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Je connais très bien la lettre aux Éphésiens. Je plaisante. En grec, c'est une seule phrase qui dure 14 versets. Donc là, du coup, alors je pense qu'en français, parfois, dans la version d'Arby, par exemple, je pense que c'est traduit quasiment en une seule phrase. Mais là, du coup, on va mettre des versets un peu partout. Et souvent, aussi dans le français courant, par exemple, on va faire plusieurs phrases. Et là, ça a plus de chances que les numéros de versets correspondent à chaque phrase. Luc. Oui. Il faudrait que... Oui. Oui, j'en ai pas parlé, oui. J'espère la retrouver facilement. Elle est peut-être un peu loin. C'est difficile, c'est plus facile, oui. Alors en fait, c'était pour dire que là, c'est une simplification que je vous projette. Là, le copiste là s'appuie sur ça et copie ça. Ici, c'est l'idée de dire que ce copiste là, ben, il recopie ce texte, mais il a peut-être aussi à sa disposition. Donc c'est pas forcément une personne qui copie à partir d'un manuscrit, mais il peut avoir plusieurs manuscrits. C'est ça, oui. Oups. Oui. À la copie des textes bibliques? Oui. 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 Alors je dirais deux choses. Un point de détail, c'est pas le plus important, mais il y a beaucoup de textes de l'époque, même non chrétiens, hein, où le copiste, enfin la personne qui écrit, rajoute des. On a ça à la fin. Vous voyez que celui qui copie et qui copie mal soit puni de Dieu, etc. Bon, voilà, peu importe. Mais le plus important, c'est que je crois... trois choses. Oui, alors il y a la dimension du sens. Bon, alors je commence par le... C'est l'idée d'une... Je pense que quand Jean dit ça à la fin, il avertit contre une modification intentionnelle. On veut modifier le texte, on veut changer la teneur du texte, et du coup on en change les mots. Donc je pense que ça s'applique surtout à ça. Je te vois... Oui, c'est ce que Jésus, c'est Matthieu 5, c'est ce que Jésus dit en Matthieu 5. Mais je fais l'hypothèse que quand Jésus dit ça, c'est la question du sens. Et je crois qu'en fait, ce qui est important, et c'est pour moi ce qui est très, très détendant, peut-être on n'a pas le texte lettre à lettre, etc. Mais l'intention de, enfin, l'idée, c'est que le sens, mais le iota peut changer le sens. Un changement d'une lettre, peut changer le sens. Je vous le fais en français. Là, c'est pas un changement de lettre, mais si. C'est une interversion de deux mots. Une sage-femme et une femme sage, c'est pas la même chose. Et pourtant, il y a les deux mêmes mots. Mais le sens n'est plus le même. Une personne violée et une personne voilée, là, on a deux lettres. Ça change exemple en français. Donc je pense qu'il faut entendre là que la solennité, le sérieux de cette parole de Dieu, on change pas le sens de la parole de Dieu. Je crois que c'est ce que Jésus veut dire. Et c'est dans un contexte où il va reprocher après à la tradition pharisienne, il dit, c'est juste après, j'ai plus le texte exactement en tête, mais c'est Matthieu 5, où il va dire, mais oui, c'est ça, l'Écriture dit, mais vous avez dit que. Et là, ça pose problème. Donc en contexte, je pense que ça éclaire bien. Oui. Ça peut tout changer. Et même nous, je dirais, enfin, on dit des choses et parfois on rajoute un mot de trop. Ben, ça change tout. Oui, tout. Alors, je me suis surtout attardé sur le Nouveau Testament parce que c'est plus simple. Enfin, c'est ou l'un ou l'autre. Donc, en tout cas, le plus gros de ce que je vous ai dit, c'est, ça vaut pour l'Ancien Testament. Mais l'Ancien Testament, les règles. Donc, il y a en effet des règles de copie de manuscrits. J'illustre, par exemple, on comptait le nombre de lettres, on comptait le nombre de mots sur la page. Et puis, si le roi rentre dans la pièce au moment où tu écris, tu continues tu ne quittes pas des yeux le texte que tu recopies, même si c'est le roi. Donc, ces règles-là, elles datent de la période qui va entre le 5e et le 10e siècle. Est-ce qu'elles étaient déjà appliquées avant? On ne sait pas. Mais en tout cas, on peut les dater de cette période-là. C'est la période de ce qu'on appelle les massorètes, qui ont recopié le texte et qui ont introduit des règles de copie. Et pour illustrer je ne rentre pas dans le détail sur l'Ancien Testament, mais l'Ancien Testament, en fait, les manuscrits complets les plus anciens qu'on ait datent du 10e ou 11e siècle de notre ère. Donc c'est beaucoup plus tardif que Moïse, etc. Et on a des portions de manuscrits qu'on a retrouvées, par exemple, à Qumran, donc en 1947, où on est remonté, on a trouvé des textes là, des copies qui dataient du 1er siècle de notre ère, et on a pu comparer ces copies du 1er siècle avec les plus anciennes qu'on avait, qui dataient du 10e siècle, et c'était quasiment identique. Alors évidemment, il y a toujours des altérations. Mais c'est pour dire le soin de la copie. Donc on a beaucoup moins de manuscrits hébreux qu'en Nouveau Testament, que la situation du Nouveau Testament. Mais ces manuscrits sont remarquablement proches les uns des autres. Donc ça donne beaucoup de tranquillité aussi. Vous avez peut-être d'autres questions. Je vous propose de les réserver plutôt pour l'échange avec moi hors. J'aimerais juste vous proposer un mot de conclusion. Ah oui, je vais trop vite. Et puis un mot aussi que je voudrais nous renvoyer à nous-mêmes. J'ai envie de dire, Dieu a parlé à son peuple Israël. Il a lui-même, d'ailleurs, mis ses paroles par écrit, une partie des paroles par écrit. Il a invité ses porte-paroles, Moïse, les prophètes, à mettre par écrit sa parole sur des matériaux. Et ça, la Bible en témoigne. Dieu nous a parlé par son Fils. La parole s'est faite chair. Elle s'est faite matière. Et il a conduit les apôtres, ses témoins, à mettre par écrit sur de la matière les paroles associées à son Fils. J'aime à me dire que les paroles de Dieu se sont faites argile, qu'elles se sont faites peau de brebis, qu'elles se sont faites papier, et même aujourd'hui elles se sont faites numériques, d'une tablette à l'autre. C'est rigolo quand même, hein. Dieu a porté sa parole, ses paroles à travers la matière et à travers aussi toute l'histoire, à travers le temps. Les paroles de Dieu ont emprunté l'histoire en empruntant tous nos chemins, tous les chemins qui sont les nôtres aujourd'hui. Et peut-être en empruntant du coup un processus qui pourra nous étonner, peut-être nous déranger, on aurait peut-être aimé quelque chose de plus, qui nous paraît plus sûr à nous. Et pour certains, du coup, en voyant ce processus, ils pourront dire, bah oui, bah tout ça, finalement, c'est trop ordinaire, ou bien c'est pas très fiable. Voilà, et puis tout ça, c'est trop ordinaire. Dieu, on s'attendrait à ce qu'il fasse autre chose. Ben, j'ai envie de nous dire, c'est là pourtant que Dieu se donne à nous, comme aujourd'hui il se donne à nous dans notre histoire, dans notre matière historique. C'est là que Dieu a choisi de se donner à nous. Et je nous invite du coup à prendre très, très au sérieux ces morceaux de papyrus, ces morceaux de papier, ces paroles que nous sommes si habitués à lire, peut-être parfois au point qu'on passe comme si c'était des paroles un peu ordinaires. Je nous invite à continuer à prendre très au sérieux aussi cet homme matériel qu'a été Jésus et ses paroles. Et j'aimerais terminer avec cette parole de l'évangile de Matthieu. Le ciel et la terre disparaîtront. Mes paroles ne disparaîtront jamais. Alors, je vais juste ma...
Oui.
Oh oui. Ok, on est à la fin du culte. Donc je suis. Je dois aller. Pour ceux qui voudraient continuer avec moi, avec grand plaisir, ce sera plus facile si vous restez manger. En tout cas, je monte pour le moment de prière, pour ceux qui voudraient un moment de prière pour des sujets personnels. Je crois que c'est tout. Oui, c'est ce que j'étais en train d'essayer de faire. Donc voilà. Donc c'est bon. Voilà. Donc c'est la fin du culte. Que le Seigneur vous accompagne et voilà, que sa parole vous nourrisse. Thank you.